Lexique de l'actuel, que du bonheur.
Allez, c'est les vacances, il fait beau, tout va bien. On arrête de ronchonner sur le vocabulaire et on s'occupe des mots qui parlent du bien-être, du légitime droit de chacun au plaisir, à la satisfaction. Eh ben justement, ça tombe mal parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus déprimant que la manière dont on sert aujourd'hui de la langue pour faire état du plaisir. Le sportif avait de bonnes sensations. Normal qu'il ait décroché le titre de champion du monde. La star qui monte les marches de Cannes l'avoue, tourner ce dernier film avec machin, ça a été comme un rêve. La réussite n'est plus le fruit du talent, elle est l'effet miraculeux de la jouissance qu'on a ressentie en faisant ce que l'on a fait, juste pour le plaisir. Vous interviewez une chanteuse qui vient d'enregistrer un CD à succès avec un groupe, et vous tentez de lui faire dire comment s'est passé le travail avec les musiciens, etc. En général, vous n'en tirez pas grand-chose de précis, sauf peut-être une date, un lieu, une anecdote. En revanche, après une petite minute de réflexion, elle vous dira « En fait, on avait surtout envie de se faire plaisir ». Et vous pouvez être sûr que la formule, une fois trouvée, va revenir deux ou trois fois dans l'interview, et même appuyée par un désinvolte, voilà quoi. Avoir envie de se faire plaisir sont des preuves de bonne santé, indiscutablement. Mais ce que veut dire la chanteuse, sans doute d'ailleurs à son insu, c'est surtout que son disque ne lui a coûté aucun effort. C'est la version contemporaine du mythe de l'inspiration, de l'artiste surdoué à qui la production de l'œuvre n'a pas coûté la moindre fatigue. La figure moderne du génie? On s'est bien éclaté. Non, tu vois, on était tous à la campagne, dans un château très beau, on a fait de la musique, et après on l'a mise dans la boîte, et voilà. Et bien sûr, c'est parce qu'ils ont si bien réussi à se faire plaisir, la chanteuse et les musiciens, que le disque a tant de succès. Le plaisir, ça sent, et c'est contagieux, et là, vous pouvez vous le faire pour 15 euros seulement. Se faire plaisir à la place de travailler, et faire de ce plaisir un objet qui va vous rapporter beaucoup d'argent, intégralement convertible en nouveau plaisir, que rêver de plus? Mais l'essentiel dans toute cette affaire, c'est quand même de le faire savoir. On ne prête qu'aux riches, et le plaisir est un signe extérieur de richesse. Il s'affiche comme un label d'appartenance à la catégorie des privilégiés. Avoir un travail qui ne se traduit que par du plaisir, faire du plaisir son métier, c'est à coup sûr mériter d'être connu. La formule « avoir envie de se faire plaisir » est un leitmotiv obligé dans le milieu people. Mais elle est gravement concurrencée depuis quelque temps par une formule encore plus dégoulinante, qui s'est rapidement démocratisé. La formule « que du bonheur ». Ah là là, ça a été extraordinaire, vraiment. « Que du bonheur ». Au total, « rien que du bonheur » signifie « tout s'est bien passé, on a été ravis, pas d'anicroche ». Autrefois, on disait « c'est bien, formidable, super, le pied, génial, cool ». Maintenant, on dit « que du bonheur » pour dire à la fois son enthousiasme, un certain partage avec ceux qui ont eu la chance de participer à l'événement, mais surtout pour dire la privatisation du plaisir. Moi j'y étais. Toi non, dommage. La privatisation, c'est l'exclusion. Le vrai bonheur, c'est d'avoir été là, au bon moment, au bon endroit. Parce que le bonheur dont il est question ici n'a rien à voir, bien entendu, avec la béatitude éternelle. On parle d'un bonheur assez complet pour donner une brève sensation de plénitude, mais dans l'éphémère, à bout portant. Un bonheur à l'ère des cycles courts. En 1960, un universitaire, Robert Mosey, avait publié une thèse qui avait eu un certain retentissement, l'idée de bonheur au XVIIIe siècle. Ce qu'il montrait à travers la littérature des Lumières, c'est que l'idée même du droit à être heureux, qui nous paraît si naturel, avait en réalité une histoire et qu'au XVIIIe siècle, pour une large part, l'aspiration au bonheur était une idée neuve en Europe. De là à penser que le bonheur pouvait devenir le mobile secret des révolutions, il n'y avait qu'un pas, que Robert Mosey hésitait à franchir, mais que la génération de 68 a sauté allègrement. Prenez vos désirs pour des réalités. L'idée a été prise au sérieux et elle a produit un mot d'ordre ambitieux, ce que nous voulons, tout. Et puis la génération de 68 s'est mise au travail pour changer la vie. On la rend responsable de toutes nos avanies. On a tort. Le véritable changement a eu lieu un peu plus tard, et de manière invisible, sous l'effet des technologies de la communication en temps réel. Un nouveau slogan est apparu, mais cette fois largement soutenu par la publicité et le marketing. Ce n'était plus « ce que nous voulons, tout », mais « ce que nous voulons, tout, tout de suite ».
Lexique de l'actuel, les élites. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelque temps, personne n'a plus honte de parler ouvertement des élites. Ce qui est amusant, si on peut dire, c'est que la réapparition du mot « les élites » est contemporaine de l'émergence d'un autre mot qui est un peu son antonyme, les exclus. Il est possible que cela ne soit pas sans rapport avec l'aggravation de l'inégalité. En 1968, les 10% les plus riches en France étaient 74 fois plus riches que les 10% les plus pauvres. Il paraît que ce coefficient de 74 dépasse maintenant l'indice 130. Ça va quand même moins vite que le CAC 40 qui a augmenté de 250% en 2 ans, à un moment où le PIB français avait du mal à atteindre les 2% de croissance. À qui profite cette disproportion? Si je réponds à l'élite, je ne risque pas vraiment de me tromper. Mais cette élite-là, c'est sûrement beaucoup moins que les 10% les plus riches de notre grossière équation, car par définition, l'élite, c'est la mini-minorité. Revenons au sens premier du mot. Élite vient du latin éligere, élire, choisir. Les élites, ce sont les élus, ceux qui ont été choisis. Oui, mais choisis par qui? Ça dépend des cas et des époques. Par leur propre clan, par la Providence, par l'université, par le vote démocratique ou par l'audimat. Les plus récents sont People, raffolent d'être connus, les autres sont les champions de l'anonymat. Dans tous les cas, l'élite, c'est ce qu'il y a de meilleur dans un ensemble, un tout petit sous-ensemble de cet ensemble. L'idée d'une élite majoritaire n'aurait aucun sens. L'élite est la classe minoritaire composée des gens qui, du fait de leur naissance ou de leur mérite, sont reconnus comme les plus aptes à occuper les premières places dans la société à laquelle ils appartiennent et qu'ils dirigent. De la naissance au mérite, il y a une nuance qui a coûté quelques révolutions. À l'ancienne élite aristocratique et cléricale, fondée sur le sang, la lignée, la naissance, le XIXe siècle a substitué une élite en principe fondée sur les capacités, les mérites et le travail. Après l'aristocratie du sang, Baudelaire appelait de ses voeux une aristocratie du cœur. L'histoire nous démontre que son espoir a été déçu. Il y a bien eu évolution des élites au XIXe siècle, mais comme au jeu des chaises musicales. L'aristocratie décline comme élite naturelle et elle est assimilée par la haute bourgeoisie qui prend sa place en se donnant à elle-même les valeurs et les usages de la noblesse, le tout au détriment des classes moyennes. La révolution industrielle oblige la bourgeoisie à parier sur l'université et la formation intellectuelle, pour maîtriser les nouvelles données du jeu politique et économique, mais cette évolution est réservée aux enfants de la haute bourgeoisie et ne change à peu près rien à l'endogamie des élites. Au contraire, aux avantages innés de la naissance et de la fortune financière viennent désormais s'ajouter le prestige du savoir technique et le pouvoir de la compétence intellectuelle. C'est la voie ouverte à une nouvelle forme de caste promise à un bel avenir, la technocratie. À cette situation bloquée, la Troisième République et le gaullisme ont tenté d'apporter le principe de l'ascension sociale. En 2 ou 3 générations, une famille paysanne ou ouvrière pouvait donner un ministre ou un professeur au Collège de France. Terminé. Chacun sent à quel point aujourd'hui l'expression « les élites de la nation » ferait vieux jeu. L'ascenseur social est bloqué, il vaut mieux dire « les élites tout court ». D'ailleurs, il n'est pas seulement bloqué, l'ascenseur, en banlieue, regardez bien avant de monter dans la cabine, c'est une question de vie ou de mort, la plupart du temps, il n'y a carrément plus rien derrière la porte. L'expression « les élites » a fait son apparition dans les médias en mai 2005, après le non français au référendum européen. Pas une émergence discrète, un raz-de-marée lexicologique. Dans l'éditorial de Libération, le lendemain du vote, Serge Julie écrivait « les partisans du non rejetaient la construction européenne, l'élargissement, les élites ». Le libéralisme et même la générosité. Le même jour, le 30 mai 2005, le Parisien parle d'un désaveu cruel pour les élites. Le 1er juin, sur France Culture, Alain Gérard Slama expliquait, je cite, « la victoire du non consacre le discrédit dans lequel nos élites sont tombées ». Le lendemain, le Nouvel Observateur titrait en couverture « le pouvoir rejeté, les élites désavouées, l'Europe sanctionnée ». Et dans les pages intérieures, Jacques Julliard confirmait « la faute en incombe d'abord aux élites ». Membres du MEDEF, hauts fonctionnaires, footballeurs, ministres, stars du show business, présentateurs de télévision, banquiers, sénateurs, tout ce que Raffarin appelait la France d'en haut s'est ainsi trouvé rebaptisé par ce terme les élites, au moment même où la France d'en bas, les jeunes, les chômeurs, les paysans, les petits employés, saisissaient le premier moyen venu de dire non à une caste dominante qui ne leur offrait pour tout avenir que la promesse de frontières plus larges pour la même exclusion. Lexique de l'actuel, les exclus. Ce n'est plus un secret pour personne, nous vivons depuis une dizaine d'années dans une société sans classe.
Le mot prolétariat a été éradiqué du vocabulaire politico-médiatique avec la même précision chirurgicale que l'expression classe ouvrière, et le mot classe lui-même ne s'emploie plus que sous forme d'adjectif pour dire c'est classe, c'est vraiment très classe. Évidemment, dans un tel contexte, quelqu'un qui s'amuserait à ressortir la vieille formule marxiste « prolétaires de tous les pays, unissez-vous » aurait l'air d'un fou, d'un Alzheimer ou d'un lobotomisé, ou d'un vieux pervers nostalgique du goulag. Avec la notion de prolétariat, on a vu disparaître tout le matériel lexical et les effets de synonymie qui l'entouraient, les opprimés et les exploités sont passés à la trappe, et avec eux, les processus dont ils étaient les victimes, l'oppression et l'exploitation. Alors évidemment, on admet bien volontiers que l'oppression n'a pas tout à fait disparu, et qu'il subsiste même des catégories qui pourraient ressembler à ce qu'on appelait autrefois le prolétariat, mais très loin d'ici, dans les faubourgs de Rio ou de Calcutta. En France, en Occident, non. On en a fini avec l'oppression et l'exploitation de l'homme par l'homme, on a des lois contre ça. Les idées d'oppression et d'exploitation ont été déclarées indésirables dans l'espace de la démocratie libérale, parce qu'avec ces mots, l'idée abstraite renvoie directement à l'idée d'agent. Pour qu'il y ait oppression, il faut qu'il y ait un oppresseur. S'il y a exploitation, c'est à coup sûr qu'il y a des exploiteurs. On n'emploie plus le mot exploitation qu'en informatique pour parler des systèmes d'exploitation. Quant à l'oppression, c'est bon pour parler des tyrannies exotiques et des mauvaises gouvernances. Ça n'a plus cours chez nous. Il n'y a plus de relation de classe. Seulement, bien sûr, tout le monde n'a pas tout à fait les mêmes moyens. Il y a le chômage, mais vous avez vu, il n'arrête pas de baisser depuis qu'on vient d'entrer dans le compte à rebours préélectoral. Il y a le chômage, il y a les RMistes, on le sait parce que ça coûte très cher en impôts, il y a les SDF, surtout l'hiver, et finalement il y a quand même les pauvres. Même si on arrivait à reconduire à la frontière tous ceux qui n'ont pas leurs papiers en règle, il en restera toujours des pauvres bien français avec tous leurs papiers en règle, et toujours trop pour que la chose passe inaperçue. Ce ne sont pas des opprimés, ni des exploités, ni des prolétaires. Les mots n'ont plus cours. Alors comment dire? Ce sont les exclus. Les exclus sont les victimes d'un processus qui est celui de l'exclusion. C'est tout à fait clair, mais quand même, pourquoi les experts de notre lexique médiatico-politique ont-ils choisi le mot « exclu » ? Parce qu'à la différence des termes « opprimé » et « exploité », qui supposent la toute-puissance d'une classe d'oppresseurs et d'exploiteurs, la langue française ne possède pas de mots pour désigner celui qui exclut. On ne peut pas parler des excluers. On aura même du mal à prononcer le mot, c'est dire. Le modèle de l'exclusion est donc parfait. Les exclus ne sont les victimes de personne en particulier, ce sont les victimes du système. Et même, pour être exact, pas de notre système national, mais les martyrs de la mondialisation, les laissés pour compte de notre modernité. Leur souffrance est trop visible pour qu'on ne cherche pas à voler à leur secours, bien sûr. Mais ça n'a rien à voir avec les anciennes misères du prolétariat, cette misère archaïque qui reposait sur l'exploitation bourgeoise de l'homme par l'homme au profit d'une classe qui détenait les moyens de production. Non, maintenant, c'est la faute à la fatalité, à la providence. À la lutte contre l'injustice sociale succède la compassion philanthropique. Mais voler à leur secours ne doit pas empêcher de considérer le phénomène avec calme et lucidité. Les exclus sont revêches. Ils ne disent pas souvent merci. Quelquefois, ils en viennent même à refuser le secours qu'on leur apporte. Au fond, il faut bien l'admettre, ils sont quand même les premiers responsables de leur triste sort. S'ils ne sont la victime de personne, à qui la faute, sinon à leur refus de s'intégrer, de s'insérer? Ce qu'il y a de bien dans l'exclusion, c'est qu'elle se conjugue au pronominal. Vivre en démocratie, c'est être libre d'entreprendre, prendre sa vie en main, devenir l'entrepreneur de soi-même. Mais être entrepreneur comporte des responsabilités. Par exemple, assumer sa faillite, faire face, rebondir. Et voilà pourquoi il faut être prudent avec la tentation de trop aider les exclus. Ce serait une méprise, aussi préjudiciable que l'idée de subventionner les industries non rentables ou les pays du tiers-monde incapables de bonne gouvernance. Arrêtons les enfoncer dans la mauvaise voie. Assez de compassion. Baudelaire avait une formule pour dire ça. Comment, déjà? Assommons les pauvres.
Lexique de l'actuel, arabo-musulman.
Le 11 septembre 2001 a eu partout les conséquences que l'on sait, mais les Français n'ont peut-être pas mesuré avec précision ce que la très nécessaire lutte antiterroriste a pu induire comme montée en puissance du dispositif policier dans notre pays. Les bonnes âmes vous diront, pourquoi s'en plaindre, on a vu ce qu'on risquait quand les banlieues ont flambé. Certes, mais pourquoi avaient-elles flambé ces banlieues? Si je me souviens bien, c'était peu de temps après qu'un ministre eût dit textuellement qu'il était temps de nettoyer au Karcher la cité des 4000 à la Courneuve. C'est bien ça ou je me trompe? Du 11 septembre à la Courneuve, il n'y a qu'un pas, et ce pas n'a pas seulement été franchi par le populisme, il appartient désormais à notre langue, avec l'apparition d'un concept médiatico-politique qui sert à tout dire, le concept d'arabo-musulman. En août 2004, Dominique de Villepin, à cette époque ministre de l'Intérieur, révèle au journal Le Monde que, parmi les dernières actions violentes à caractère antisémite, je cite, 50 ont été commises par des individus d'origine arabo-musulmane. De son côté, Michel Rocard, quelques mois plus tard, déclarait dans le Figaro, je cite, « Il faut trouver des alliés au sein du monde arabo-musulman pour triompher des forces de destruction qui s'y donnent libre cours. » Rendons-lui justice, Michel Rocard n'avait pas tort, ni sur le fond, ni sur la forme, et son usage géopolitique du terme arabo-musulman est ici correct. Il voulait désigner l'ensemble des pays arabes de confession islamique. Mais ce n'est pas du tout avec ce sens-là que le terme est employé, à la va-comme je te pousse, par la plupart des médias. L'immense succès de la formule tient d'abord à une profonde ignorance de l'opinion, savamment entretenue. Une ignorance qui laisse entendre que tous les musulmans sont arabes et que tous les arabes sont musulmans. Contre les évidences les plus établies de l'histoire, la nébuleuse arabo-musulmane englobera par exemple les Turcs, en donnant une raison sérieuse pour y regarder à deux fois avant d'imaginer intégrer la Turquie à l'Europe. La nébuleuse arabo-musulmane englobera tout aussi bien l'Iran, pays des ayatollahs, où il n'y a pas la moindre trace de tradition arabe, mais dont le fondamentalisme suffit au fond à prouver l'équation musulman égale arabe égale terroriste en puissance. La formule arabo-musulman sert à justifier les mesures d'exception exigées par la lutte anti-Al-Qaïda dans les trains, le métro, les aéroports et les cités. Mais elle est également très commode pour se débarrasser de ces immigrés marocains, algériens ou même africains. D'ailleurs, serait-il autre chose, libanais, saoudiens ou palestiniens? Ce sont des arabes, non? Et musulmans qui plus est? Alors vous voyez bien. L'ennui, c'est qu'il y a aussi des arabes qui se trouvent être des citoyens français à part entière, au moins en principe. Et ils sont même près de 4 millions. Alors là, comment dire? On n'ose plus parler de nord-africains. Ça rappellerait trop Nordaf, la guerre d'Algérie, l'OAS, les mauvais souvenirs. Depuis la fin des années 1960, on a préféré dire maghrébin. Mais on a fini par s'en rendre compte, le Maghreb, c'est surtout une entité coloniale. Jamais un Marocain, un Tunisien ou un Algérien ne parlerait de lui-même en disant qu'il est maghrébin. Maghrébin est un mot fantasmatique, comme le montre d'ailleurs la déclaration de Marie L. Vous vous souvenez cette mythomane du RER qui avait porté plainte pour une agression imaginaire? Elle avait dit, je cite, « J'ai été attaqué par des jeunes de type maghrébin. » Donc difficile de continuer à dire maghrébin. On a cherché et on a trouvé. Un euphémisme, on dit maintenant « issu de l'immigration ». C'est clair, net, administratif et sans préjugés. Mais vous avez remarqué que depuis 2001 en tout cas, on ne dit jamais « issu de l'immigration » pour parler des jeunes d'origine portugaise, espagnole, polonaise ou chinoise. En fait, tout le monde le comprend à demi-mot, « issu de l'immigration » veut dire « né de parents maghrébins ». C'est-à-dire qui au juste? Eh bien, pour l'essentiel, des jeunes souvent chômeurs, qui vivent dans des quartiers sensibles, on dit quartiers sensibles, c'est-à-dire une proie facile pour les propagandistes du salafisme, pour les prêcheurs de haine, autrement dit, CQFD, des candidats naturels pour le complot arabo-musulman. Et la boucle est bouclée, mais désormais sur l'idée d'un complot intérieur. La menace a paru si sérieuse que le concept de quartier sensible a fini par paraître trop anodin et qu'on a inventé la notion de quartier ultra-sensible. 200 quartiers, classés comme cible majeure de la propagande islamiste, par le Haut Conseil à l'intégration. Arabo-musulman veut donc dire islamiste. Alors que faire? Gilles Kapel, qui n'exerce pas ses talents au ministère de l'Intérieur, mais à Sciences Po, ne voit pas deux solutions, je cite, « La menace islamiste ne sera éradiquée que si les sociétés civiles s'emploient d'urgence à l'éradiquer. » Lexique de l'actuel, société sans classe. Deux siècles après le déclenchement de la Révolution française,
La chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, est présentée depuis une quinzaine d'années comme un tournant historique mondial d'une ampleur au moins aussi considérable. Pour cette partie occidentale du monde qui s'était donné le titre avantageux de monde libre, c'était la fin du cauchemar communiste. Ouf ! Pendant un moment, l'euphorie a été telle que les intellectuels les plus audacieux se sont sérieusement demandé si l'histoire n'était pas en train de se terminer sur une sorte de happy end démocratique et libéral. Rappelez-vous, c'était en 1992, La fin de l'histoire, par Francis Fukuyama. Fini l'équilibre de la terreur, fini le monde bipolaire, un seul et même pôle triomphant et bienveillant, plus de guerre, plus que du bonheur, dans un monde sans histoire enfin réconcilié autour de l'essentiel, la production, les affaires, l'argent, le profit. L'histoire, avec sa grande hache, n'a pas manqué de couper court aux illusions, en tombant là où on l'attendait le moins, au cœur même de la vieille Europe, par la guerre civile, le nationalisme et le génocide, puis au cœur même de l'Empire libéral, sous la forme d'une nouvelle menace plus diffuse et donc plus diabolique que le communisme, la nébuleuse terroriste. En démontrant que loin d'avoir triomphé de ses ennemis, la démocratie était au contraire menacée, le 11 septembre 2001 est alors apparu comme un nouveau tournant historique mondial. Plus rien ne serait comme avant. Ce qui, au passage, nous fait déjà deux mutations en moins de 15 ans. Sans parler de celles qui s'annoncent, la fulgurante montée en puissance de la Chine, le déclenchement des grands cycles de catastrophes écologiques, autant de tournants historiques attendus qui pourraient bien tout changer à l'équilibre mondial. En fait, c'est fou le nombre de tournants historiques depuis que l'histoire est mondialisée. Autrefois, on attendait un siècle ou deux pour négocier un virage. Maintenant, l'histoire change de cap tous les 10 ans. C'est au point qu'on peut se demander si à force de tourner, on ne va pas carrément faire demi-tour, sans s'en apercevoir et repartir de là où on était venu. Quoi qu'il en soit, on finirait presque par l'oublier, le pôle soviétique a bel et bien disparu, le monde communiste a été effacé des mémoires, avec une rage de négation que l'historien François Furet avait bien décrite en 1995 dans Le passé d'une illusion. À y regarder de près, ce qui est vrai des anciennes démocraties populaires l'est tout autant chez nous. Personne aujourd'hui n'ose plus parler de la lutte des classes. Parler de classe sociale est suspect, parler de conflit serait une grossièreté. Ne dites pas la classe ouvrière ou le monde paysan, ça n'existe plus. À peine si l'on se risque à évoquer la notion de classe moyenne, il vaut mieux éviter, il s'y cache l'idée qu'il y aurait quelque chose à ses marges. On a d'ailleurs pu mesurer à quel point des effets rhétoriques comme la fracture sociale de Jacques Chirac ou comme la France d'en haut et la France d'en bas de Raffarin étaient des gaffes monumentales. Même l'idée de couche sociale, pourtant aussi horizontale qu'il est possible, est encore trop verticale et paraît déplacée. Mais sans le mot classe, comment parler du collectif ? Groupe n'est pas très bon, ça évoque les groupes de jeunes, un truc pour la police de proximité. Ou bien encore pire, il y a communauté. Mais chacun le sait, dans notre République, rien de ça n'est à attendre des communautés. Non, il faut parler de milieu, de tranches, de catégories socio-professionnelles. Voilà de bonnes notions qui prêtent à penser que l'on parle d'une seule et même chose, bien horizontale et divisible en segments. Une substance homogène que l'on peut traiter sans arrière-pensée à coups d'audimat, de sondages, de diagrammes et de statistiques. L'adjectif social reste un peu nauséabond. Autant qu'il est possible, on lui préférera sociétal. En revanche, le mot « milieu » est idéal. Il s'applique aussi bien au monde des affaires qu'à celui de l'athlétisme, aux intellectuels ou aux commerçants. Le milieu, c'est ce qui permet de coexister sans se faire d'ombre, ni se marcher sur les pieds. Le milieu, c'est ce qui n'a ni haut, ni bas, ni devant, ni derrière, un espace convivial, sans bord ni frontières nettement déclarées. Alors, que faire du mot « classe » ? Il reste la première et la deuxième classe, en avion ou dans le TGV, la classe tout risque, pour votre assurance automobile, c'est à peu près tout. Non, il y a aussi l'adjectif classe. C'est classe. Un appartement très classe. Un blouson de marque vraiment classe. Une blonde super classe. Classe pour dire à la fois chic, élégant, riche et désinvolte. Et voilà comment, d'une manière que ni Marx ni Lénine n'auraient pu imaginer, nous vivons désormais dans une société sans classe.